nous avons décidé de lire paragraphe par paragraphe pour pouvoir entrer dans des détails d'explication, mais cette méthode a un inconvénient. C'est que, comme je vous l'ai déjà dit, Aurobindo prend toutes les théories et il les expose dans tous leurs détails avec tous leurs arguments pour pouvoir ensuite montrer quels sont leurs défauts et leur incapacité de résoudre le problème et présenter sa propre solution. Mais quand on s'arrête au milieu de l'argument et qu'on prend un seul paragraphe, si on lit ce paragraphe sans continuer jusqu'au bout, on pourrait très bien s'imaginer, croire, que c'est sa propre opinion qu'il donne. En fait, il y a des gens un peu scrupuleux qui ont fait ça, et quand ils ont voulu démontrer que leur propre théorie était correcte, ils ont cité des paragraphes de chez Aurobindo sans dire ce qui était avant ni ce qui était après. À l'appui de leur propre théorie, ils ont dit, vous voyez, chez Aurobindo, dans la vie divine, il a écrit ça. Il a écrit ça, mais ça ne voulait pas dire que c'était sa propre façon de voir. Et pour nous, nous sommes en présence de la même difficulté. Depuis deux leçons, je crois, je suis en train de lire la démonstration en détail d'une des théories modernes sur la vie, l'évolution, la raison d'être de l'existence ou le manque de raison d'être de l'existence. Et il donne ça d'une façon tout à fait concluante, comme si c'était sa propre théorie et sa propre façon de voir. Nous nous arrêtons au milieu et nous restons avec une sorte de malaise et l'impression que mais ce n'est pas ça qu'il nous avait dit. Comment se fait-il que c'est ça maintenant qu'il nous expose? Ça, c'est un assez gros inconvénient. Mais si je vous lisais toute l'argumentation, quand nous serions arrivés au bout, vous ne vous souviendriez pas du commencement et vous ne pourriez pas suivre. Alors, le mieux à faire est de continuer tranquillement, paragraphe par paragraphe, en tâchant de comprendre ce qu'il dit, mais sans vous imaginer qu'il veut nous prouver que c'est vrai. Il veut simplement exposer les théories avec tout ce qui supporte ces théories sans nous dire que cela est la façon la meilleure de voir. Et je viens de m'apercevoir qu'il y a encore au moins deux paragraphes sur le même argument et que c'est seulement ensuite qu'il va reprendre tous ces points et les démontrer en quoi ils sont insuffisants et incomplets. au fond, il faudrait prendre cette lecture comme une occasion de développer en vous l'esprit philosophique et la capacité d'arranger les idées dans un ordre logique et d'établir sur une base solide un argument. Il faut prendre ça comme les exercices d'haltère pour se faire des muscles. Ce sont des exercices d'haltère du mental pour se faire un cerveau. Mais il ne faut pas se précipiter vers des conclusions hâtivement. Si nous attendons avec patience, à la fin du chapitre, il nous dira, et il nous dira avec une base d'argumentation irréfutable, pourquoi il est arrivé à la conclusion à laquelle il arrivera. Maintenant, s'il y a là-dedans quelque chose qui suscite une question,
pas du texte.
Autre chose. Quoi?
Mais quelquefois, on a des idées très soudaines, n'est-ce pas? D'où est-ce qu'il vient et comment est-ce qu'il s'agisse dans la tête?
Les idées que l'on a tout d'un coup, d'où elles viennent? De l'atmosphère mentale. Pourquoi elles viennent? Ça peut être qu'on les rencontre sur son chemin, comme on rencontre un passant sur la place publique. Mais plus souvent, c'est ça. On se trouve sur une route où circulent des idées et il se trouve qu'on rencontre celle-là qui passe par votre tête. Il est évident que pour ceux qui ont l'habitude de la méditation, la concentration, et pour qui les problèmes intellectuels ont une réalité tout à fait concrète et tangible, alors, par la concentration de leur esprit, ils attirent les idées concomitantes et ils se forment une compagnie d'idées qu'ils organisent de façon à résoudre un problème ou à éclaircir une question qu'il se pose. Mais pour ça, il faut avoir l'habitude de la concentration mentale et justement cet esprit philosophique dont je parlais, pour qui les idées sont des entités vivantes qui ont leur vie propre et que l'on organise sur l'échiquier mental comme les pions du jeu d'échecs. On les prend, on les déplace, on les met, on les organise, on fait un ensemble cohérent avec ces idées qui sont des entités individuelles, indépendantes, et qui ont des affinités entre elles, elles s'organisent selon des lois intérieures. Mais pour ça, il faut aussi avoir l'habitude de la méditation, de la réflexion, de l'analyse, de la déduction, de l'organisation mentale. Autrement, si on est comme ça, qu'on vit comme ça vient, alors ça c'est tout à fait ce que je disais, quand vous êtes sur une place publique, il y a des routes, et sur les routes il y a des individus qui passent, et alors vous vous trouvez au croisement d'une route, et puis ça passe par votre tête. Quelquefois, même sans aucun rapport les unes avec les autres, au point que si vous écriviez ce qui passe par votre tête, ça ferait d'admirables coq à l'âne. Nous avons dit une fois qu'on peut s'exercer utilement à un petit jeu. C'est soudain de demander à quelqu'un, à quoi penses-tu? Eh bien, ce n'est pas fréquent qu'il puisse vous répondre clairement, ah, je pensais justement à telle chose. S'il vous dit ça, vous pouvez vous rendre compte que c'est une personne réfléchie. Autrement, la réponse habituelle et spontanée, c'est « Ah, je ne sais pas. » N'est-ce pas, tous ceux qui ont fait de l'exercice physique ordonné et organisé savent, par exemple, les différents muscles qu'il faut faire mouvoir pour obtenir un certain mouvement et quelle est la meilleure manière de les faire mouvoir et comment obtenir le maximum d'effet avec le minimum de perte d'énergie. Eh bien, pour la pensée, c'est la même chose. Quand on s'entraîne méthodiquement, il arrive un moment où on peut suivre un raisonnement d'une façon tout à fait objective, comme on projetterait une image sur un écran, et la déduction logique d'une idée vers une autre et la marche normale, logique, organisée, avec le minimum de perte de temps, depuis une proposition jusqu'à son aboutissement. Une fois qu'on a l'habitude de faire ça, comme on a l'habitude de faire mouvoir logiquement les muscles qui doivent mouvoir pour pour obtenir un résultat, eh bien, on a la pensée claire. Autrement, les mouvements de la pensée, les mouvements intellectuels sont vagues, imprécis, flottants. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgit, on ne sait pas pourquoi. Et autre chose vient contredire, on ne sait pas pourquoi aussi. Et si on arrive à... on cherche à organiser ça clairement pour se rendre compte exactement du rapport des idées les unes avec les autres, eh bien, les premières fois qu'on le fait, on attrape un joli mal de tête. Et on a l'impression qu'on est en train de chercher à trouver son chemin dans une forêt vierge très obscure. Le mental spéculatif a besoin de discipline pour se développer. Si on ne le discipline pas, d'une façon méthodique, on est toujours dans une sorte de nuage. Et l'immense majorité des êtres humains peuvent loger dans leur cerveau les idées les plus contradictoires sans en être le moins du monde gêné. Bien, tant qu'on n'essaye pas d'organiser ça clairement, on risque tout au moins de ne pas avoir de contrôle sur ce que l'on pense. Et très souvent, il faut que ça descende jusqu'à l'action pour qu'on commence à se rendre compte de la valeur de ce que l'on pense. Ou si ce n'est pas jusqu'à l'action, au moins c'est jusqu'au sentiment. C'est quand tout d'un coup on s'aperçoit qu'on a des sentiments qui ne sont pas très désirables, qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout contrôlé sa manière de penser.
Mais les gens qui ont des idées mauvaises, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de contrôle sur le mental?
Des idées mauvaises?
Oui.
Il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Il y en a en fait plusieurs raisons. Ça peut être le résultat d'un mauvais caractère. S'ils ont eux-mêmes de vilains sentiments, ces vilains sentiments peuvent être la cause des vilaines idées. Ça peut être le contraire. Ça peut être qu'ils sont un champ libre à toutes sortes de suggestions venant du dehors, et que, comme j'ai dit, ces suggestions entrent en eux et petit à petit créent les vilains sentiments. Ça peut être le résultat d'influence subconsciente, et alors qui sont justement en eux parce qu'ils n'ont pas de contrôle. Quand ces influences surgissent à la surface, au lieu de les contrôler et de refuser celles qui sont indésirables, tout entre comme ça veut, avec les portes ouvertes. On baigne dans toutes les choses possibles. Bon, mauvais, neutre, lumineux, obscur, tout ça c'est là. Et la conscience de chacun, en principe, doit agir comme un filtre. On ne doit recevoir que ce que l'on veut recevoir. On ne doit penser que ce que l'on veut penser, et alors on ne doit admettre que ces pensées se changent en vous, en sentiments, en actions, que sous votre contrôle exact. Au fond, ça, c'est la raison d'être de l'existence physique. C'est que chacun est un instrument pour contrôler des vibrations, ne recevoir que ce qui est conforme au plan divin et refuser le reste. Mais, je sais pas, il n'y en a pas un sur un millier qui le fasse. On le fait un peu à demi-consciemment par la friction des circonstances et de l'entourage. Mais quant à le faire volontairement, certainement il y a fort peu d'individus humains qui le font volontairement. Et même en le faisant volontairement, le faire avec de la vraie manière et avec la vraie connaissance, ça alors c'est encore plus exceptionnel. Puis contrôle sur sa pensée. Qui a le contrôle sur sa pensée? Seulement ceux qui se sont dressés à ça, qui ont fait des efforts depuis leur enfant. Il y a toute l'échelle, n'est-ce pas? Depuis l'absence de contrôle total qui, pour la majorité des gens, se traduit ainsi, que c'est la pensée qui les domine et pas eux qui dominent leur pensée. Il y en a l'immense majorité, il y a l'immense majorité des gens qui sont harassés par des pensées dont ils ne peuvent pas se débarrasser et qu'ils littéralement les possèdent. Ils n'ont pas le pouvoir de fermer la porte de leur conscience active à ces pensées. Ce sont les pensées qui les gouvernent, qui les dominent. On entend quotidiennement des gens: oh, cette pensée, Elle est tout le temps à me venir et me revenir, et je ne peux pas m'en débarrasser. Alors ça exprime toutes sortes de choses. Depuis des anxiétés jusqu'à des mauvaises volontés, des craintes, les pensées qui traduisent la frayeur sont tout à fait harassantes. On essaye de les renvoyer, ça revient comme un caoutchouc, mais ça retombe sur vous. Qui est-ce qui a le contrôle? Il faut des années de travail pour ça. Une si grande habitude. Et alors arriver à cette chose qui n'est pas le contrôle complet, mais enfin qui est déjà une étape, que on ait la capacité dans sa tête de faire ça, tout s'arrête. Comme quand on ouvre un livre à une page blanche. Mais presque matériellement, n'est-ce pas? Blanc. Essayez un peu chez vous. Oui, c'est très intéressant. Alors, on suit l'endroit dans sa tête où est le petit point qui danse. J'ai vu chez Aurobindo faire ça, dans la tête de quelqu'un qui se plaignait justement comme ça, d'être harassé par des idées. C'était comme si sa main venait, prenait le petit point noir qui dansait, c'est comme ça. Tout immobile, tranquille, lumineux, quoi. C'est visiblement comme ça, ça. Prenez. Et les choses se tiennent très, très étroitement. J'ai vu aussi le cas où quelqu'un venait à lui avec une douleur aiguë, ici ou là-haut, j'ai mal, là-haut, j'ai mal, là-haut, j'ai mal, là-haut. Il ne disait rien, il restait tranquille, il regardait la personne. Et moi, je voyais, n'est-ce pas, comme une sorte de main du physique subtil qui venait, qui prenait le petit point qui dansait en désordre et en confusion, et il le prenait comme ça. Voilà. Oh, ma douleur est partie. Thank you.